RFI 6h44 en temps universel. Et la suite, c'est un nouveau journal dans un quart d'heure. Et la Syrie à la une, on part à nouveau dans la Routa, en périphérie de Damas, place forte de la révolution. Lourdement réprimée pendant de longues années, la jeunesse réinvestit aujourd'hui les quartiers. C'est notre reportage du jour avec nos envoyés spéciaux Oriane Verdier et Julien Boileau. À la une également du prochain journal, l'état d'urgence prolongé en Haïti pour faciliter les interventions des forces de l'ordre qui tentent toujours de reprendre le contrôle face aux gangs. Vous entendrez les réactions contrasté, parfois sceptique, des habitants de Port-au-Prince. À suivre d'ici là, notamment, retour sur la dernière étape du voyage d'Emmanuel Macron entre Mayotte et la Corne de l'Afrique. Il était hier en Éthiopie. Et puis notre reportage Afrique au Maroc ce matin. On parle des VTC qui continuent de prospérer malgré l'interdiction et les conflits entre les chauffeurs pour particuliers et les taxis. Mais d'abord, cap sur le Canada, où le sujet de l'immigration est, comme ailleurs, de plus en plus central. Le pays a entamé au mois d'octobre un tournant radical en annonçant une réduction drastique des quotas d'immigration. Le Canada accueille plus de 400 000 personnes chaque année triées sur le volet. Et pour la première fois, une majorité de Canadiens, 58%, considèrent qu'ils sont trop nombreux. Une étude a pourtant révélé le mois dernier qu'une proportion importante de ces immigrés repartent au bout de quelques années. Une réalité particulièrement prononcée chez les francophones, dont un tiers quitte le Canada dans les 5 ans après leur arrivée. Pascal Guéricola a rencontré quelques-uns de ceux qui y songent ou s'y préparent. Reportage.
Installée dans la ville de Québec depuis 4 ans, Aurélie et son conjoint rentrent en France avant la fin de l'année avec leur bébé tout neuf pour se rapprocher de leur famille. Parmi les raisons du retour, la jeune femme rencontrée dans un café évoque aussi l'augmentation du coût de la vie dans sa patrie d'adoption.
Je note le montant de nos achats d'épicerie depuis qu'on est arrivé pour faire nos comptes. Et ça a vraiment beaucoup augmenté depuis qu'on est là. Tout coûte très très cher. Le loyer aussi, tous les loyers, à moins de se retrouver en sous-sol ou en demi-sous-sol. C'est vrai que je pense qu'on a quand même l'idée, quand on vient de la France, de « Ok, on aura un meilleur salaire, donc un meilleur niveau de vie ». En l'occurrence, comme le coût de la vie autour est plus élevé, on n'a pas forcément un meilleur niveau de vie. C'est un système très capitaliste ici et on paye tout le temps pour tout. J'ai toujours l'impression de mettre la main à la carte.
Ils sont très gentils, on s'entend très bien, mais ça reste de la surface. Ça ne va pas aller plus loin.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs discutent également de la tendance du Québec et du Canada à se vanter un peu trop du caractère accueillant du pays. Autour d'un thé chez elle, Alexandra parle des difficiles liens d'amitié avec les Québécois. La Française songe à repartir avec sa famille, faute de se sentir intégrée au bout de 8 ans.
On ne nous fait pas sentir qu'on est ici chez nous comme Québécois. On sera toujours des Français. On se sent seul parfois, on a eu du mal à s'insérer, à intégrer cette culture québécoise. Et faire toujours des efforts, c'est vrai que ça, à la longue, ça fatigue.
Les efforts dont parle la mère de famille concernent aussi se déployer pour se conformer aux exigences des employeurs. Dans son bureau au 5e étage de l'Université Laval, la géographe Adèle Garnier énumère les obstacles professionnels qu'affrontent les immigrants, même après plusieurs années au Canada.
Une des barrières, justement, c'est la reconnaissance des compétences. Mais mettons, vous êtes psychologue, vous êtes avocat, des métiers comme ça, vous êtes ingénieur. Ça demande beaucoup d'efforts au Canada et au Québec particulièrement de rester. Vous êtes médecin, les démarches à faire pour être médecin ici, quand vous êtes surtout pas français, c'est très difficile. S'ils n'ont pas le travail qu'ils veulent ou le salaire qu'ils veulent, ils vont peut-être aller chercher mieux ailleurs.
Les statistiques montrent que les personnes davantage qualifiées ont tendance à quitter le Canada. Un signal d'alarme, selon la chercheuse. Elle invite les autorités à déployer plus de moyens pour les retenir et leur faire une place ici. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Notre reportage international au Canada que vous retrouvez sur RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
En Allemagne, l'hommage hier aux victimes de l'attaque à la voiture bélier sur un marché de Magdebourg. Le dernier bilan provisoire fait état de 5 morts et 200 blessés. Environ 2000 personnes se sont réunies hier soir autour du président Steinmeier et du chancelier Olaf Scholz. Les motivations de l'auteur d'origine saoudienne sont encore confuses. Un accident de car suivi d'un incendie, une terrible tragédie, dit le président Lula. Au Brésil, au moins 38 morts hier dans le sud-est du pays. c'est le pire accident routier au Brésil depuis 2007, selon les données de la police. Le pape François condamne la cruauté d'une frappe aérienne israélienne, un bombardement qui a tué vendredi 7 enfants d'une même famille à Gaza, selon la défense civile du territoire palestinien. Israël dénonce une mise à l'index et accuse le pape d'un deux poids, deux mesures. L'aide au compte-gouttes, toujours à Mayotte, une semaine après le cyclone Chido et son bilan, toujours provisoire et sans doute loin de la réalité, 35 morts et 2500 blessés. La population s'impatiente alors que le chef-lieu Mamoudzou n'a été que partiellement raccordé à l'eau hier. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, annonce que d'ici ce soir, 90% de la population retrouvera l'eau courante, deux jours sur trois pendant 8 heures. Et puis des frappes américaines au Yémen hier contre des installations militaires des Houthis à Sanaa, la capitale. Des bombardements quelques heures après que les rebelles Houthis ont revendiqué le tir d'un missile sur le centre d'Israël, faisant 16 blessés légers. 7h50 à Paris.
RFI Matin.
Et lui a terminé hier un voyage qui avait commencé à Mayotte avant de l'emmener à Djibouti, fêter Noël avec les soldats français et évoquer l'avenir de la plus grande base française sur le continent. Avant de rentrer à Paris, Emmanuel Macron a marqué hier une dernière étape en Éthiopie, l'occasion notamment de revenir sur le contentieux entre Addis Abeba, la Somalie et le Somaliland. Pour le président français, la demande de l'Éthiopie, pays enclavé, d'obtenir un accès à la mer est une demande légitime. Il a salué le récent accord trouvé avec la Somalie sur ce dossier régional sensible, Pierre Firsion.
C'est un objectif central pour l'Éthiopie. Le pays cherche à obtenir un accès à la mer Rouge, un sujet qui avait généré de fortes tensions avec la Somalie voisine lorsqu'en janvier, Addis Abeba a signé un protocole d'accord avec la région séparatiste du Somaliland pour lui louer 20 km de côte. Un projet d'accès à la mer sur lequel le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé hier l'aide de la France.
L'Éthiopie a une population de 130 millions d'habitants. L'économie croît de manière considérable. Et pour cela, c'est un pays qui aura besoin d'accès à la mer, de manière paisible, diplomatique, en collaborant avec des pays frères comme la France.
Emmanuel Macron s'est dit prêt à mettre de l'huile dans les rouages, dans ce dossier extrêmement sensible. Le président français jugeant ce projet légitime.
Est-ce que le Premier ministre a dit sur l'accès à la mer, la nécessité pour l'Éthiopie de diversifier ses accès, d'avoir la maîtrise de son destin dans un environnement régional ô combien difficile, est une demande légitime. Et la France souhaite, le rôle qu'elle peut jouer, et beaucoup d'humilité, eh bien aider à ce processus de diversification par un dialogue responsable, apaisé, respectueux du droit international.
Le 11 décembre dernier, sous l'égide de la Turquie, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud se sont mis d'accord pour permettre à l'Éthiopie d'obtenir un accès à la mer sans que cela ne heurte Mogadiscio. Pierre Firsion, Addis Abeba, RFI.
Addis Abeba, où il est 9h52. Et notre reportage Afrique nous emmène au Maroc parler ce matin des VTC. Alors qu'Uber a jeté l'éponge il y a 6 ans déjà, d'autres applications de transport à la personne opèrent au Maroc comme Karim, Yango ou InDrive. Le vide juridique concernant cette pratique provoque toujours de nombreuses situations de conflit entre chauffeurs de taxi et chauffeurs particuliers. À Casablanca, François Umferkataji.
Mustapha parcourt les artères de Casablanca depuis 5 heures du matin dans son petit taxi rouge au siège défraîchi. Il est chauffeur depuis plus de 10 ans. Selon lui, le métier devient de plus en plus pénible. Les bouchons kazaouis lui rendent le quotidien difficile et l'essor des applications de transport l'inquiète. Pour lui, ces applications devraient être réservées uniquement aux taxis rouges.
Le problème, c'est que des véhicules personnels arrivent sur ce marché et les chauffeurs de taxis sont obligés de partager leur clientèle avec ces nouveaux acteurs. Ça réduit notre pouvoir d'achat et ça nous fatigue au quotidien. Il faut réguler le système de transport urbain. Et c'est l'État qui doit le faire.
Sur la toile, les vidéos se multiplient, montrant des chauffeurs de taxi lancer des attaques verbales ou physiques contre les conducteurs utilisant ces applications avec leur véhicule personnel et accusés de ne pas respecter la loi. Le mois dernier, la presse marocaine a largement relayé l'histoire d'un ressortissant russe qui s'est interposé pour séparer un chauffeur de taxi et un chauffeur de VTC en pleine bagarre. Le chauffeur de taxi a été mis aux arrêts. À Casablanca, Youssef, conducteur pour une application, âgé de 65 ans, a appris à éviter ses collègues taxis.
Ça fait 2 ans que je fais ce travail-là, ou ce service-là. Au début, on avait beaucoup de problèmes. Mais j'évite les chauffeurs, j'évite la police. J'essaie d'éviter.
Les entreprises du digital qui opèrent au Maroc n'ont toujours pas réussi à convaincre les autorités de légiférer pour permettre aux chauffeurs privés de travailler légalement. C'est ainsi qu'Hicham, chauffeur InDrive à Marrakech, s'est fait retirer son permis.
J'étais dénoncé par les taxis. Eux, ils ne voulaient pas que ces applications travaillent ici au Maroc. J'étais arrêté, j'étais choqué. Bien sûr, les clients aussi ont été choqués par ce geste-là. Ils m'ont pris mon permis pour 3 mois. C'était pas facile pour moi parce que c'est ma seule source. Bien sûr, la voiture a été confisquée et j'ai payé une pénalité.
Pour éviter les problèmes, les clients des applications sont invités à s'asseoir à l'avant et régler la course le plus discrètement possible. Situation paradoxale, bien que les chauffeurs de VTC travaillent toujours dans l'illégalité, certaines applications comme l'américaine InDrive affichent ses publicités dans la rue. François Imferkataji, Casablanca, RFI.
Notre reportage Afrique au Maroc. Bientôt 7h en temps universel et avant le journal dans 5 minutes, un peu de musique avec le Nigérian Wizkid et le chanteur de R&B américain Brent Fayaz. Le titre Peace of My Heart est dans la sélection du mois d'RFI.
Baby girl, you know I love you though. You could tell my secrets but I love you don't. I could take you anywhere you wanna go. Tell me where you wanna go.
Nothing can tear us apart. You've got a piece of my heart. Nothing can tear us apart.
Nothing in this world.
You've got a piece of my heart
that belongs to you, girl. I can't let you have too much.
But you can't see me when you want. That's too much. Pop that body for me, that's my kind of healing. Sexual, give me all of you. So make you fall into my wingspan. So make I take you higher for the moment. You know if anybody can, baby, we can. And it go feel like the right season. Give me one test. I ain't done to do the things that make a man crazy. Nobody ever do it better than this. Drunk on your love and fit to make a man chase. And if I ever hurt you, I mean well. What I gotta do to make you know it's all real. If I could, I would keep you to myself. Enough to separate the feelings where they fit.
Nothing can tear us apart.
It's not that easy.
You got a piece of my heart.
You know you need me.
I go give you reasons, baby, kick your feet up. You know they mind them, baby, give me one dance. Yeah, I go control, baby, give me true passion. Oh, every day apart, girl, I need a loving. Feels so good, feels like soul food.
She don't know what it costs to live this life.
Wizkid et Brent Fayaz, le titre Peace of My Heart et la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez, vous le savez, sur musique.rfi.fr. A tout de suite pour un nouveau journal.
Afrique, mémoire d'un continent. avec Elgas.
C'est un beau bébé de 430 kilos, divinité, constitution, âme et esprit sacré du peuple hébrié. Son nom, c'est Didi Ayokwe, plus connu sous le nom de tambour parleur. Volé par l'administration coloniale en 1916, il s'apprête à faire un retour en Côte d'Ivoire après un exil centenaire.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU, sur RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Je reçois la journaliste Mathilde Mélin, qui est spécialisée dans l'écoute et la critique de podcasts. Avec elle, nous allons revenir sur quelques-unes des productions francophones marquantes de l'année 2024, toutes en lien avec l'international. Rendez-vous tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI et dès maintenant en podcast pour une spéciale podcast, justement, dans l'atelier des médias.
Le Club RFI, Éric Amien.
Comme chaque année, les membres des clubs RFI de Buntombo, de la RDC et Grand Popo du Bénin se mobilisent pour offrir un moment chaleureux et convivial aux plus démunis. Des animations spécialement conçues pour faire oublier le quotidien parfois très difficile des enfants.
Le Club RFI, Éric Amien.
Tout à l'heure, à partir de 19h40 TU sur RFI.
Le Club RFI, de loin, l'émission la plus proche.